Pourquoi Afrique ? Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manilakidza, la présentation de cette édition du jeudi 26 août 2021. Voici d'abord le sommaire. Au moins 6 morts après 2 explosions à l'aéroport de Kaboul pendant les opérations d'évacuation. La Maison-Blanche retarde la rencontre avec le Premier ministre israélien et Londres tient une réunion de crise. Au Mali, un ancien Premier ministre d'Ibeka est sous mandat de dépôt dans l'achat d'un avion pour Ibeka. En Éthiopie, plus de 200 personnes tuées dans une attaque imputée à un groupe rebelle au rebond. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Afghanistan, au moins 6 morts et de nombreux blessés dans l'attentat qui a frappé jeudi les abords de l'aéroport de Kaboul, où se passent depuis 12 jours des milliers d'Afghans et d'étrangers soucieux de quitter le pays aux mains des talibans. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a indiqué que plusieurs militaires américains ont été tués et blessés. Les précisions de John Lyndon.
Nous pouvons confirmer une explosion à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul, a tweeté le porte-parole du Pentagone, John Kirby. L'explosion qui s'est produite à proximité de la Baguette, l'un des 3 points d'accès à l'aéroport, a causé un nombre inconnu de victimes, a-t-il ajouté, sans préciser si l'explosion avait fait des morts. L'ambassadeur de France à Kaboul a fait état d'une menace de deuxième explosion. À tous nos amis afghans, si vous êtes près des portes de l'aéroport, éloignez-vous de toute urgence et mettez-vous à l'abri. Une deuxième explosion est possible, a-t-il tweeté. L'ambassade des États-Unis a appelé tous les ressortissants américains à s'éloigner de l'aéroport immédiatement. Il y a eu une grosse explosion à l'aéroport et des informations sur des échanges de coups de feu, a-t-elle précisé. À Londres, le ministère de la Défense a indiqué tenter d'établir les faits et leur impact sur les évacuations en cours. Le Premier ministre Boris Johnson a convoqué une réunion d'urgence à Downing Street. Pourtant, hier nuit, les responsables américains et alliés ont fait état de menaces crédibles d'attentats suicides autour de l'aéroport de Kaboul, où un gigantesque pont aérien est organisé depuis le 14 août.
Après l'annonce de ces explosions à l'aéroport de Kaboul, les capitales occidentales sont engagées dans une course contre la montre pour terminer les évacuations au plus tard le 31 août. Abdulrahman Dia.
Avant même l'explosion, les pays occidentaux avaient averti leurs citoyens de quitter immédiatement les environs de l'aéroport de Kaboul en raison d'une menace terroriste que la Grande-Bretagne a qualifiée d'imminente et de très grave. Le président américain Joe Biden suit la situation avec ses conseillers en sécurité à la Maison-Blanche. Réunion de crise également à Londres autour du Premier ministre Boris Johnson. La France essaie encore d'évacuer plusieurs centaines de personnes d'Afghanistan, a déclaré ce jeudi le président Emmanuel Macron, ajoutant que Paris faisait le maximum pour y arriver, mais sans garantie en raison de la situation sécuritaire extrêmement tendue. Paris a prévu de terminer ses opérations d'ici demain soir, tout comme la Belgique. Le gouvernement néerlandais annonce l'arrêt des évacuations de Kaboul dans ce que le Premier ministre Mark Rutte qualifie de terrible développement qui laissera derrière à la fois des citoyens néerlandais avec leurs familles, mais aussi des Afghans que Amsterdam voulait évacuer. La Pologne, la Hongrie et le Canada ont tous entièrement bouclé leurs opérations. Le Canada a déclaré qu'il était parmi les derniers à cesser les opérations d'évacuation. Mais pour la Commission européenne, les pays qui ont participé à la mission de l'OTAN en Afghanistan ont le devoir d'aider ceux qui sont particulièrement à risque en Afghanistan, que ce soit avant ou après la date limite.
Nous reviendrons sur l'Afghanistan dans toutes nos prochaines éditions. L'ancien Premier ministre malien Soumeilou Boubeye Maïga a été écroué jeudi dans une affaire de fraude présumée d'atteinte aux biens publics, a annoncé son avocat Kassoum Tapo. Il est soupçonné d'escroquerie, faux, usage de faux et favoritisme. Les précisions avec Mohamed Danioko.
Ce matin, l'ancien Premier ministre Soumelou Boubé Maïga a été placé sous mandat de dépôt à la suite de son interpellation par le procureur général près la Cour suprême. Ce mandat de dépôt vise à faire la lumière sur l'affaire dite « achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires ». Il faut noter qu'il y a quelques jours, invité sur un plateau de télévision, Soumelou Boubé Maïga avait affirmé que ce dossier avait été classé sans suite. Ce à quoi le procureur général près la Cour suprême, Mamadou Timbo, dans un flash spécial sur les antennes de la télévision nationale, avait répondu qu'un procureur de la République au niveau du pôle économique et financier ne peut ni classer sans suite ni déclencher l'action publique, avant d'ajouter que toute personne impliquée dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires sera traduite devant la justice. Hier, Maître Kassoum Tapo, avocat de Soumelou Boubé Maïga, dans une sortie sur les réseaux sociaux, affirmait que seule la Haute Cour de justice était capable de juger son client. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Le chef de la junte au Tchad a proposé mercredi de relancer l'accord quadripartite entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad, en créant une force mixte aux frontières libyennes pour prévenir notamment l'incursion de groupes rebelles. Notre pays est engagé résolument à jouer sa partition pour aider le peuple libyen, mais en retour, le Tchad souhaite vivement que des mercenaires et bandes armées écumant la Libye ne déstabilisent pas les pays voisins, a déclaré Mahamat Idriss Déby à l'occasion de la première visite au Tchad du vice-président du conseil présidentiel libyen depuis le décès du président Déby. Plus de 210 personnes ont été tuées la semaine dernière dans l'ouest de l'Éthiopie, a affirmé jeudi la Commission éthiopienne des droits humains, se fondant sur des témoignages d'habitants qui imputent ces attaques à un groupe rebelle Oromo. Selon ces témoignages, des hommes armés prétendument affiliés à l'armée de libération Oromo ou l'OLA ont mené le 18 août des attaques à caractère ethnique au lendemain d'un retrait des forces de sécurité du secteur de Jida Kirumu. L'OLA est un parti d'opposition dont les dirigeants sont revenus d'exil à nier toute responsabilité. Au Maroc, la campagne électorale pour les élections législatives, régionales et communales du 8 septembre a débuté jeudi. Pour la première fois, près de 18 millions de Marocains, dont 46% de femmes, sont appelés à voter pour élire les 395 députés de la Chambre des représentants et les plus de 31 000 élus communaux et régionaux. En raison de la pandémie de coronavirus, les grands meetings ne devraient pas se tenir et les rassemblements de plus de 25 personnes sont interdits. 8 personnes, dont 6 Kenyans et 2 Chinois, ont été tuées et 2 autres blessés jeudi après l'effondrement d'une grue sur un chantier de construction à Nairobi. La grue s'est écrasée alors qu'une équipe de 10 ouvriers tenter de la démonter sur un projet de construction d'un foyer pour étudiants de 14 étages, supervisé par une entreprise chinoise. La cause de l'effondrement est encore inconnue.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden devait recevoir cet après-midi le Premier ministre israélien Naftali Bennett pour des discussions centrées sur la lutte contre le programme nucléaire iranien. La rencontre a été retardée à cause des événements à l'aéroport de Kaboul. Les détails avec Claire Moinjibour.
Cette rencontre sera le premier face-à-face des deux hommes depuis la prise de fonction en juin de Naftali Bennett. Aucune conférence de presse n'est prévue. « J'apporte avec moi de Jérusalem un nouvel esprit de coopération », a déclaré M. Bennett, qui a qualifié Joe Biden de « vieille et vrai ami de l'État d'Israël ». Les désaccords ne manquent pas. Les États-Unis tentent de revenir sur la décision de l'ancien président Donald Trump de se retirer de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Y revenir serait une erreur pour Israël, qui juge que l'accord n'avait pas freiné les agressions régionales de l'Iran. Naftali Bennett a déclaré qu'il présenterait à ce sujet un plan méthodique au président Biden. Des conseillers israéliens ont par ailleurs affirmé que le Premier ministre n'avait pas l'intention d'évoquer la reprise des discussions sur la mise en place d'un État palestinien. L'administration Biden soutient la solution de deux États.
L'Égypte a partiellement rouvert jeudi pour les voyageurs se rendant à Gaza. Le point de passage de Rafah y sera ouvert dans les deux sens dimanche, selon le Hamas. L'État hébreu doit également permettre à 1 000 hommes d'affaires gazaouis de sortir de la bande de Gaza via le point de passage d'Erez au nord. Par ailleurs, une vingtaine de Palestiniens ont été blessés mercredi dans de nouveaux heurts avec les forces israéliennes près de la barrière frontalière. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez ce soir Rosine Munezero pour la Minute Éco.
L'Éthiopie veut achever son grand barrage de la Renaissance et envisage déjà un plan décennal. L'entreprise Ethiopian Electric Power prévoit de mettre en œuvre 71 projets électriques au cours des 10 prochaines années. La réalisation de ces projets coûtera plus de 40 milliards de dollars américains, une somme qui sera mobilisée auprès de partenaires privés et publics, dont la Banque africaine de développement ou la Banque mondiale. La pandémie de COVID-19 ne devrait pas réduire l'intérêt des investisseurs pour l'Afrique, ont estimé plusieurs conférenciers à l'ouverture du Forum des affaires Afrique-Singapour 2021. Le président de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi Adesina, a exprimé son optimisme quant aux opportunités d'investissement en citant notamment les énergies renouvelables, le développement des mini et micro-réseaux d'énergie solaire, les infrastructures et la logistique. Au Cameroun, 70% de la production locale du riz est exportée vers le Nigeria. Les régions du nord du Cameroun, qui partagent une longue frontière avec le Nigeria, abritent à elles seules 84% des superficies aménagées pour la production du riz. Les producteurs camerounais exportent le riz vers le Nigeria en raison des prix compétitifs pratiqués par les acheteurs nigériens.
Nous passons directement à votre page des sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. On commence par le tableau des médailles des Jeux paralympiques de Tokyo ce jeudi. La Chine est en tête avec 23 médailles, dont 8 en or, suivi de la Grande-Bretagne, 16 médailles, dont 6 en or. Le comité paralympique russe est troisième avec 17 médailles, dont 6 en or. L'Australie est quatrième avec 14 médailles, 6 en or. Les Pays-Bas sont cinquièmes avec 8 médailles, dont 5 en or. Les États-Unis sont septièmes avec 4 médailles, dont 2 en or. Le premier pays africain, et d'ailleurs le seul, est le Nigeria, avec une seule médaille, et elle est en or. En football, on commence par ce communiqué de la Confédération africaine de football qui exhorte le gouvernement britannique à fournir les exemptions requises pour permettre aux joueurs africains de représenter leur pays lors des prochaines éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022. La CAF note que des dérogations similaires ont été accordées par le gouvernement britannique pour permettre la participation de délégations et d'officiels au championnat d'Europe de l'UEFA qui s'est tenu il y a moins de 2 mois. Il est également noté que la situation dans les pays africains figurant sur la liste rouge est dans de nombreux cas moins grave que celle d'autres pays qui ne figurent pas actuellement sur cette liste ou pour lesquels des exemptions étaient auparavant prévues. La CAF lance donc, je cite, un appel urgent à la FA, la Fédération anglaise et au gouvernement britannique pour que le même traitement précédemment appliqué à l'Europe soit désormais étendu à l'Afrique en vertu des principes de solidarité et d'égalité. Fin de citation. En football toujours, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, a dévoilé ce jeudi sa liste de 30 joueurs retenus pour affronter le Mozambique et le Cameroun à l'occasion des deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022, les 3 et 6 septembre. Selon Foot Afrique, cette liste est marquée par des absences de Nicolas Pepe d'Arsenal et Wilfried Zaha de Crystal Palace, possiblement retenus par leur club, même si les autres joueurs de Première Ligue comme Serge Aurier de Tottenham et les Mancuniens Eric Bailly et Amad Diallo sont bien là. On note le grand retour de Jean-Michel Seri de Fulham, rarement appelé depuis la CAN 2019, et présent aux côtés des cadres comme Gervinho, Gradel, Kessier, Seri Dié, Cornet, Boga et Haller. La Tunisie aussi a rendu publique sa liste de joueurs retenus pour débuter les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 contre la Guinée équatoriale le 3 septembre et la Zambie le 7 septembre. Selon Foot Afrique, cette liste est marquée par de grands retours des expérimentés Fakhreddine Ben Youssef, 30 ans, attaquant, et Hamza Malouhi, 29 ans, latéral droit, qui n'était plus apparu en sélection depuis 2019. On remarque en revanche les absences de Moez Hassen, qui est sans club, Naïm Sliti, qui avait pris part à deux des trois matchs amicaux de juin.
C'était les sports de Bagassikoura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Sénégal, l'ancien président tchadien Hissène Habré a été inhumé. Aujourd'hui, les précisions de Seydina Abagay.
C'est à la mosquée Oumarienne, située sur la corniche ouest de Dakar, que la levée du corps d'Hissène Habré a eu lieu. Entre la famille, les proches et les curieux, la prière mortuaire a précédé le départ du cortège funèbre vers le cimetière musulman de Yoff. Pour certains Sénégalais, comme Ousmane Silla, le défunt chef d'État tchadien devait être inhumé chez lui.
Moi, j'aurais préféré le voir au Tchad pour qu'il puisse recevoir les honneurs et tout ce qui va avec. Parce que quoi que l'on puisse dire, c'est aussi un ancien chef d'État. Mais bon, il faut reconnaître que c'est une situation assez complexe et c'est le Sénégal qui s'est toujours porté garant dans bien des choses. Entre son asile, son procès, sa condamnation et sa vie carcérale, le Sénégal a toujours été au devant de la scène alors que l'on a des problèmes qui nous suffisent largement.
Pour Abdallah Fall, le Sénégal a une réputation qui l'oblige à faire bonne figure dans ce genre de cas. Pour lui, le fait d'inhumer Hissène Habré au Sénégal n'a rien d'extraordinaire.
Notre pays a toujours été une terre d'accueil pour les peuples et les personnalités en difficulté. On l'a vu avec le peuple libanais, les Haïtiens et j'en passe. Il faut savoir que la diplomatie sénégalaise est très stratégique sur beaucoup de questions et tout Sénégalais doit en être fier. Nous sommes le pays de la Teranga et nous devons le rester. Et ce n'est pas la première fois qu'un ancien chef d'État est inhumé au Sénégal. Amadou Ahidjo, ancien président du Cameroun, repose ici au cimetière musulman de Yoff.
Hissène Habré a été inhumé au cimetière musulman de Yoff à Dakar. C'est dans la capitale sénégalaise qu'il a été accueilli à la chute de son régime. C'est aussi ici qu'il a finalement été jugé et condamné par les chambres africaines pour son pays.
C'est Yabba Dakar. L'ancien ministre de la Défense et premier ministre du Mali, Boubé Maïga, vient placer son mandat de dépôt en affaire détournement de l'achat des équipements militaires après la sortie du procureur général de la Cour suprême du Mali qui estime que le dossier n'était pas clos. Pour en parler, Modibo Dembélé a joint le docteur Yacouba Koulibaly, enseignant-chercheur à la faculté de droit de Bamako.
Le classement sans suite est une décision administrative. Elle n'a pas d'autorité de choix jugée. Ce qui fait que les membres du ministère public peuvent revenir sur cette décision lorsqu'ils ont des nouvelles informations, des nouveaux éléments, des nouvelles preuves sur la personne ou dans l'affaire.
Est-ce que le procureur général de la Cour suprême a-t-il réagi au moment où le dossier a été classé sans suite?
Il n'a pas réagi publiquement à notre connaissance, mais il peut réagir à tout moment. Puisque c'est une décision administrative, il peut réagir à tout moment tant qu'il n'y a pas eu la prescription de l'affaire. Parce qu'en matière criminel qui 10 ans passent alors que la poursuite n'a pas été déclenchée, l'action publique n'a pas été exercée, l'action publique sera éteinte. Puisque l'action publique n'est pas éteinte, le procureur général est en droit de déclencher la procédure.
Nous savons que le président de la République, les anciens premiers ministres et les ministres jouissent du privilège des juridictions. Et aujourd'hui, à l'absence de la Haute Cour de justice, comment la justice malienne entendra-t-elle ce dossier?
Même si la Haute Cour de justice pour le moment n'est pas opérationnelle parce que la Haute Cour de justice est une juridiction chargée de juger les ministres et les présidents qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions. En l'absence de cette Haute Cour de justice, la Cour d'assises sera saisie pour statuer sur cette affaire à la fin de l'enquête.
C'était le docteur Yacouba Koulibaly, enseignant-chercheur à la faculté de droit de Bamako, au micro de Modibo Dembélé.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, la résurgence des cas du COVID-19 inquiète le gouvernement qui a multiplié les séances de sensibilisation sur le respect des gestes barrières et des mesures préventives. En quelques jours, le centre de traitement des malades s'est retrouvé débordé avec l'arrivée de malades du COVID-19, une situation qui a poussé le gouvernement à prendre d'autres mesures restrictives pour contenir la propagation du virus. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
C'est un aller-retour incessant des ambulances entre Cotonou et le centre de traitement des malades testés positifs, situé à Lada, à environ 50 km de Cotonou. Durant la première semaine du mois d'août, sur 2600 tests réalisés, 170 sont déclarés positifs. Le centre de traitement reçoit chaque jour 10 à 12 patients du COVID-19. Ce nombre est en forte hausse et démontre l'urgence sanitaire actuelle, obligeant le personnel soignant à être en alerte maximale. À la date du 22 août 2021, le Bénin compte plus de 3000 cas actifs pour 12 021 cas confirmés et 127 décès.
Il est important à l'heure actuelle que nos concitoyens sachent que nous sommes en train de passer des heures très difficiles.
Dodi Ange Dossou est le directeur de la médecine hospitalière. Il parle d'une situation alarmante sur le nombre croissant de nouveaux malades et appelle la population à une prise de conscience indispensable.
Au cours des vagues passées, on avait dit le plus souvent que ce sont des sujets adultes ou les sujets ayant des comorbidités, de diabète, de tension, de drépanocytose. Mais aujourd'hui, des jeunes de 29 ans, de 39 ans, de 33 ans, de 34 ans sont atteints sans être porteurs d'aucune comorbidité. Ce qui fait que toutes nos équipes sont surbookées. La lettre est maximale au niveau de tous les centres de prise en charge. La consommation d'oxygène affole. Nous sommes pratiquement à 200 bouteilles par jour. On se demande jusqu'à quand on va tenir.
On doit la flambée des cas de contamination au relâchement des gestes barrières. Les Béninois ont tout fait de banaliser le virus, prétestant d'un complot pour réduire l'humanité pour certains. Le port de masque, malgré la répression de la police, n'est pas du tout respecté. Certains ne comprennent pas une telle méprise, malgré le danger.
On dirait que le masque est devenu une fantaisie, est devenu un objet qu'on met pour mettre. Non, c'est une erreur grave. Il ne sert à rien de baisser le masque sous le nez ou sur le menton, pensant tromper la vigilance de quelqu'un, nous mettons les masques pour nous-mêmes et pour nos proches.
Il n'y a pas que le port de masque qui est foulé aux pieds. On assiste également à la banalisation de la distanciation sociale, le lavage systématique des mains et à une campagne de dénigrement lancée sur les réseaux sociaux contre la campagne nationale de vaccination. Le ministre de la Santé ne cesse de multiplier les sorties médiatiques pour appeler la population à une prise de conscience. Benjamin Roumpati est le ministre de la santé.
Les vaccino-sceptiques créent chaque jour, utilisent chaque élément pour empoisonner l'atmosphère, pour faire résister de plus en plus ceux qui ont tendance à vouloir se faire vacciner. Et c'est triste, c'est malheureux. Tout le monde devient intellectuel, scientifique, écrit sa propre information, dénature totalement ce qui se passe et de fait devient coupable de meurtre. Parce que cette infodémie qui est créée, c'est ça qui entraîne ceux qui sont à l'ADA. À l'ADA, nous consommons en une journée la quantité d'oxygène que nous consommons habituellement pour des mois.
Depuis le 16 mars 2020, date de détection du premier cas de COVID-19 au Bénin, le gouvernement a pris des mesures fortes pour en limiter la propagation. Mais c'est sans compter avec le scepticisme de la population qui, dans sa majorité, peine à croire en l'existence de la maladie. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le G5 Sahel face à la recrudescence des attaques djihadistes. Avec l'annonce en juillet dernier d'une réorganisation de la présence française dans la région, beaucoup s'attendent à la montée en puissance de la force composée de 5 pays du Sahel. Mais l'annonce de la réduction de moitié de l'effectif tchadien dans la région des trois frontières pose la question de l'avenir du G5 Sahel, alors que les groupes armés multiplient les attaques dans le nord du Burkina, au Niger et au Mali. Quelle stratégie face aux djihadistes au Sahel? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Gabon, le gouvernement a récemment ordonné la suspension de tous les tournois sportifs. Selon le ministère de l'Intérieur, la décision qui concerne aussi les activités sur les plages vise une meilleure riposte contre le COVID-19 au Gabon. Mais dans l'ensemble, la pilule ne passe pas dans un pays où toutes les disciplines sportives sont paralysées depuis plus d'un an, faute de championnats nationaux. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Nze.
Cette décision du gouvernement sur suspension des activités sportives pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19 est mal perçue par le président de la Ligue de Wushu de Libreville, Armel Joe Mbogou, et président de la dite Ligue.
Nous les respections déjà avec l'ouverture effectivement des entraînements du sport collectif avec naturellement ces mesures restreignantes qui voulaient qu'on se retrouve au moins à 30. Mais quand on vient totalement tout arrêter, c'est un problème.
Le problème posé sur la table de discussion par les acteurs du sport, toutes disciplines confondues, est de savoir comment dans ce contexte d'interdiction des rassemblements, concilier les exigences sanitaires et la pratique des sports collectifs. D'autant que le Gabon se remet difficilement d'une récente débâcle aux Jeux Olympiques de Tokyo avec un groupe de 5 athlètes mal préparés à la compétition. Pour Dave Moubélé, analyste sportif, le mal est très profond.
Qu'on le veuille ou pas, c'est une situation aujourd'hui qui crée des incidences à tous les niveaux sur le plan de la société gabonaise aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan sportif, sur le plan de la prise en charge de ces différents acteurs qui, en vérité, ne vivent que cela. Que dire des intermittents autour de ces différentes activités sportives-là qui, aujourd'hui, ne retrouvent plus leur compte. Nous sommes tous d'accord qu'il va falloir mettre en place des mécanismes pour réguler la pandémie actuelle, mais d'abord pouvoir faire en sorte qu'on puisse arrêter tout.
Chez les footballeurs, le rêve des grandes solutions du forum de mai dernier s'est envolé. Il avait pour vocation la relance du championnat avant la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Michael Boussengue, secrétaire général adjoint de l'Association des footballeurs professionnels du Gabon.
On s'est dit qu'il faudrait que les choses changent parce qu'il y a la CAN qui arrive, les éliminatoires, et ça fait un bon nombre d'années qu'on n'a plus de joueurs locaux dans nos équipes nationales. Que ce soit les autorités politiques et sportives, tout le monde devrait comprendre que c'est important que les jeunes footballeurs qui évoluent au Gabon aient aussi une chance d'entrer en équipe nationale.
Dans les rédactions, les rubriques de sport sont sous-alimentées. À défaut des championnats à couvrir, les chroniqueurs font preuve d'ingéniosité. Willing Dong est journaliste sportif au grand quotidien gabonais L'Union.
Vous n'avez pas l'actualité, vous pouvez donner à titre d'exemple une interview exclusive à Pierre-Emerick Aubameyang, qui est le meilleur joueur gabonais de quasiment de tous les temps. Et tout naturellement, le lectorat est satisfait.
Le communiqué du ministère de l'Intérieur fait exception aux compétitions internationales où les participants demeurent assujettis à la présentation d'un test PCR négatif ou de la carte de vaccination contre le Covid-19. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Michel Claire-Joseph, Georges Léonard Sagnon et Joselle Morissin. Eric Maniakis a été avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.
You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest, yeah. But what if I trip? I was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up, lifting me up. Yeah. And turn me down, down. Yeah. Take responsibility for everything I've done. Yeah. Holding it against me like you're the holy one. Yeah. I had a chance.